J'aimerais remercier Pasteur Claude pour son appui, son soutien depuis le tout début dans le ministère jusqu'à aujourd'hui. Il est mon mentor. Merci aussi à Chantal, son épouse, qui sont des amis à Luc et moi depuis 25 ans. C'est un plaisir d'œuvrer ensemble. Et j'en profite, c'est rare que j'ai l'occasion de le faire, remercier Jocelyn, Olivier, Guylaine, son épouse, qui sont aussi des amis depuis 25 ans. Et je dois vous avouer, pour voyager, c'est très rare qu'on réussisse à maintenir une équipe de vieux routiers comme ça qui tient la route encore pour voir le royaume de Dieu avancer. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci, Pasteur Claude. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Le Dieu qui agit dans l'attente ». Dans l'attente. Et juste vous dire, oh my, Pasteur Stéphanie, ce matin, en cette journée de fête des mères, j'aurais voulu que tu nous parles du Dieu qui fait des miracles, de l'impossible, du Dieu qui répond à tous nos prières en ce moment. Mais... le titre va être « Le Dieu qui agit dans l'attente ». Histoire de vous torturer un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire « attendre » ? Le mot « attendre » veut dire « rester longtemps ». Dites avec moi. Dites-le encore, ça fait du bien. Longtemps, jusqu'à ce que quelque chose se produise, ça veut dire « patienter ». Alphonse de Lamartine est un poète, un romancier, un dramaturge du 18e siècle. Et lui, il a écrit sur la patience, il a dit « La patience est la vertu du juste ». Est-ce qu'il y a des justes dans ce lieu? Donne un coup de poing à gauche. Demande-lui à ton voisin, ta voisine, est-ce que tu es vertueux? Ça veut dire, est-ce que tu es patient? Toi, es-tu vertueux? Alors, qu'est-ce que c'est? Il dit, la patience, c'est la vertu du juste. Et Giacomo Leopardi a ajouté, lui aussi, est un auteur italien, cette fois-ci au 18e siècle. C'est beau, il a écrit, « La patience est la plus héroïque des vertus, précisément parce qu'elle n'a pas la moindre apparence d'héroïsme. » Et je me disais, wow, c'est quand même beau. Mais plus je regardais ça, je me disais, pourquoi ils peuvent qualifier la patience de vertu, quelque chose d'héroïque? Parce que ces deux gars-là ont vécu au 18e siècle. Ils n'ont pas vécu au 21e siècle où tout va rapidement, n'est-ce pas? Au 21e siècle, c'est difficile d'être patient. Et Joyce Meyer, elle, a écrit, « La patience n'est pas simplement... la capacité d'attendre, c'est la manière de se comporter lorsque nous attendons. » Et ça, ça fait encore plus mal. Parce que si je te posais la question ce matin, comment te comportes-tu quand tu attends quelque chose? Et si je suis honnête avec vous, moi, je ne suis pas patiente. J'ai beaucoup de vertus, mais je n'ai pas cette vertu-là. Et les gens qui me connaissent bien, Mylène qui a travaillé avec moi, qui a voyagé avec moi, elle vous confirmerait, et mon mari aussi, moi, il faut que tout se passe vite. Est-ce qu'il y a des gens comme moi dans ce lieu? Je fais tout vite, la cuisine vite, l'épicerie vite, tout est vite. Et à chaque mardi matin, quand j'arrive au bureau, je passe par le Tim Hortons qui est juste ici à côté de l'église. Et puis cette semaine, alors que je me préparais dans ce message, j'ai fait exactement la même chose. Je suis allée à la commande à l'auto pour, et je dirais, le drive pour nos amis français qui écoutent. Et là, je suis à la commande à l'auto et je vois qu'il y a quelques voitures. Alors là, moi, je me dis en moi-même, ça devrait aller vite. Mais vous savez, c'est le genre de matin où il n'y a rien qui bougeait. J'ai eu le temps de regarder mes courriels. Je tiens à préciser que j'étais arrêtée. Alors, je regardais mes courriels. J'ai eu le temps de remettre mon mascara, me maquiller. J'ai eu le temps d'exprimer verbalement quelques petites frustrations. Quand finalement, ce qui m'a semblé désordre, je suis arrivée au drive, à la commande, et la personne m'a donné mon café et il m'a dit « Bonne journée ». Et dans mon esprit, j'avais l'impression que ça faisait des heures que j'attends, mais j'ai regardé à l'intérieur de ma voiture, ça faisait 4 minutes. J'ai attendu 4 minutes, ça m'a eu l'air une éternité. Et alors que j'étais en pleine frustration et je vois le gars me donner mon café, que je réalise, n'est-ce pas, que c'est un étudiant de l'ITF qui est là. Et là, je dis, ah, bonjour, bonne journée, merci, Pasteur Stéphanie. Et là, j'avais l'air vraiment, vraiment, et je me dis, ah, Stéphanie, toi, tout est vite. Et on rit, mais je ne sais pas comment vous réagissez lorsque vous attendez pour des petites choses, mais c'est encore plus important, comment réagis-tu lorsque tu attends des choses importantes? Lorsque tu attends peut-être un emploi, tu es à la recherche d'un emploi dans celui-là. Peut-être que tu es étudiant, c'est la fin de la session, tu es en attente, tu as hâte de terminer, soit le cégep, l'université. Tu es en attente de quelque chose. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu? À main haute, exprimez-vous à main haute, vraiment, qu'on puisse voyez, visualiser hommes et femmes célibataires dans ce lieu. J'arrête quelques secondes, ça va, c'est réglé. Peut-être que tu es célibataire dans ce lieu et tu es en attente de te marier. Peut-être que, comme Pasteur Claude le dit, tu es une femme dans ce lieu, t'espères être une maman bientôt, tu es en attente d'avoir un enfant. Peut-être que tu es une maman dans ce lieu, tu es en attente de voir tes enfants fonctionnels et heureux. Peut-être que tu es une maman et un papa dans ce lieu, tu es en attente de voir tes enfants partir de la maison. Il y a toutes sortes d'attentes qui prennent place. Et peut-être que tu es dans l'attente de voir quelqu'un qui est cher, le salut, venir dans ta maison pour ton mari, tes enfants peut-être, de voir quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, revenir à Dieu. Peut-être que tu es dans l'attente d'un rêve, tu es dans l'attente d'une promesse qui tarde à venir. Comment réagis-tu dans cette attente-là? Et souvent, lorsqu'on attend, il y a des questions qu'on attend longtemps, on se pose des questions, certaines questions, et il y a des questions qu'on se pose, juste vous dire, ces questions-là, on se les a toutes posées, mais elles sont inutiles, fausses et non constructives. Par exemple, souvent, lorsqu'on attend, on va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que Dieu ne réponde pas à mes prières? Vous êtes-vous déjà posé la question? Écoutons, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu répond à elle ou à lui? Et pour moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être que Dieu ne m'aime pas assez pour répondre maintenant à ma prière. Peut-être que je ne mérite pas que Dieu réponde à ma prière. Et même, j'irai plus loin, et ça c'est entre vous et Dieu, des fois sans que personne le sait, peut-être qu'on peut dire même, peut-être que Dieu n'est pas capable de répondre à ma prière, peut-être à cette promesse-là, peut-être que c'est trop grand pour lui. Et pourtant, j'aimerais vous montrer que se poser ces questions-là qui sont fausses, sont inutiles. J'aimerais ce matin qu'on puisse regarder ensemble comment, dans l'attente, Dieu est en train de travailler. Pendant que tu as l'impression d'attendre, Dieu n'est pas immobile, mais il est en action. L'attente, c'est dans l'attente que Dieu nous façonne et fait de nous une meilleure version de nous-mêmes si on le laisse agir. Comment réagis-tu dans l'attente? Alors, ce matin, on va regarder à la vie d'une femme que j'aime beaucoup, qui est Sarah. Sarah et Abraham. On va regarder comment, vous savez, Abraham est le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a attendu pendant 25 ans la réalisation d'une promesse. 25 ans. Alors, donne un coup de coude à droite et à gauche. Dis, j'espère que ça ne sera pas aussi long dans mon cas. J'espère que ça ne sera pas aussi long dans mon cas. Mais on va voir à travers ces deux personnages-là, particulièrement à travers Sarah, comment Dieu a agi alors qu'ils étaient dans l'attente d'une promesse. Quelle est cette promesse-là? La promesse est dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Et l'Éternel va dire à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et c'est fascinant parce que lorsqu'on regarde cette promesse-là, Dieu va leur dire, quitte ton pays où tu es. Ils sont à Ur en Chaldée. Il va dire, va-t'en dans un pays où là, je vais exaucer ma promesse. J'aimerais bien tourner la page qui a suivi puis dire, et finalement, Abraham est arrivé avec Sarah en Canaan. Ils eurent beaucoup d'enfants, fin, et l'histoire se termine là. Dieu t'emmène avec moi. Il me semble que ce serait une belle histoire. Mais non! Dieu choisit de les accompagner sur un long pèlerinage, sur un chemin. Et à travers ce chemin-là, comme je dis, ils vont partir de Ur en Chaldée. Ils vont marcher jusqu'à Haran ou Charan. Et imaginez quand je dis un long pèlerinage, ils marchaient à pied avec des tentes, avec des chameaux, tout ça. Et ils ont marché pendant 900 kilomètres. Et rendus à Charan 900 kilomètres plus tard, il n'était qu'à mi-chemin de la réalisation de la promesse. Alors Dieu, on va voir tout au long de ce cheminement-là, comment Dieu ne les abandonnera pas. Au contraire, comment chaque lieu de Charan par la suite à Canaan, où ils vont avoir effectivement la bénédiction, comment à travers ces trois lieux-là étaient des endroits destinés où Dieu voulait agir. C'était des incontournables. J'ai dit Ur en Chaldée, c'était le lieu de l'incompréhension, j'ai appelé. Le lieu de l'incompréhension et de la guérison. On va voir par la suite, alors qu'ils sont à Charan, ça a été Charan et le lieu de la transformation et de la libération. Et finalement, ils vont faire un petit détour en Égypte, mais ils vont aller à Canaan, et Canaan est le lieu de la révélation et de la bénédiction. J'ai dit Chaldée, le lieu de l'incompréhension et de la guérison. Rappelez-vous, je viens de vous dire il y a quelques instants, que Dieu a donné une promesse à Abraham. Par le fait même, la promesse impliquait Sarah, sa femme, parce qu'elle père d'une multitude de nations. Évidemment, c'est Sarah qui devait devenir enceinte et accoucher d'un enfant. Et c'est fascinant parce que lorsque cette promesse est donnée, là, si on regarde là, en Genèse 11, versets 29 à 30, la première chose qui est dite à propos de Saraï, la femme d'Abraham, c'est celle-ci. La femme d'Abraham se nommait Saraï. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Ça éveille rien, vous, ça? Dieu donne une promesse disant à un couple qu'elle allait être le père d'une grande nation, mais son choix pour réaliser cette promesse-là s'arrête sur une fille qui est stérile. Avouez que c'est Dieu aime les choses compliquées. Et ça aurait été beaucoup plus simple dans l'histoire que Sarah soit fertile et qu'ils font ce qu'ils ont à faire et qu'ils font ce qu'ils ont à faire et finalement, il serait devenu père d'une nation. Quand je me suis commencé à réaliser, c'est fou parce que la première chose qu'on dit de Sarah, c'est qu'elle est stérile. Et encore aujourd'hui, une femme stérile, c'est difficile, c'est impitoyable, c'est un mot qui est dur pour une femme de ne pas être capable d'enfanter, de donner la vie. Et c'est triste. Puis en plus, à l'époque encore, il y avait encore plus une connotation qui était dure parce que le rôle de la femme à cette époque-là, c'était d'enfanter et donner particulièrement des fils des héritiers. Donc, Sarah, son rôle était d'enfanter, n'était pas capable. Et par la suite, Sarah, lorsqu'on regarde, on étudie les coutumes de l'époque, la valeur d'une femme était reliée à sa capacité de donner un enfant. Sa valeur, l'amour de son mari était relié à sa capacité de donner la vie. Et même dans la société, une femme qui était stérile, c'est une femme sans valeur, méprisée, rejetée. Et en plus, il y a une connotation encore plus grande, c'est que la fertilité est associée à la bénédiction et l'infertilité est associée à la malédiction. Et quand tu regardes, tu dis, mais c'est quand même incroyable. Pourquoi Dieu, tu pars de quelqu'un qui est stérile pour donner une des plus grandes promesses de l'humanité? La révélation que Dieu m'a mise sur mon cœur, c'est que peu importe l'état de ta situation, peu importe ta stérilité, parce que nous avons tous, à quelque part, un coin dans notre cœur ou dans notre âme qui est stérile, ou que lorsqu'on est en attente d'une promesse, la vie est absente. Et j'étais fascinée parce que ce simple passage nous montre la grandeur et la puissance de Dieu. La réalisation des promesses de Dieu, mes amis, ce matin, ne repose en aucun cas sur ta stérilité ou sur la honte que cela peut engendrer. Sarah, être stérile, était une source de honte. Et peut-être ce matin, tu es venu avec dans ton cœur un endroit, personne ne sait, c'est en toi et Dieu, quelque chose qui est stérile, quelque chose que tu as honte. Et même des fois, comme parents, on peut avoir honte de notre famille, honte de nos enfants, honte d'une situation dans notre vie qui est sans vie. Peut-être tu es venu comme quelque chose qui est mort, du doute, de ne pas croire que Dieu a la capacité de le faire. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu va utiliser une femme infertile pour donner naissance à une nation qui sera une source de bénédiction. Peu importe ta situation ce matin, peu importe ce que tu traverses, il est le Dieu de l'impossible. Et la réalisation de la promesse ne dépend pas sur ta condition, mais il dépend sur qui tu es. Et le domaine où Saraï expérimente la honte la plus puissante, la souffrance la plus amère, fait l'objet de la promesse divine la plus folle et la plus impossible. J'ai écrit, Dieu est capable de redonner la vie non seulement à un ventre stérile, mais aussi à un cœur mort. La première étape de Ur en Chaldée, le point de Dieu, pourquoi Dieu a agi là, parce que Dieu savait que la bénédiction allait venir, il savait qu'Abraham et Sarah donneraient naissance à un fils. Mais le passage de départ de Ur en Chaldée, c'est que Dieu voulait guérir la honte et redonner l'identité de cette femme. Amen. Et Dieu, ce matin, veut te dire la même chose, te redonner son identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es aimé. Et peu importe ta stérilité, Dieu est capable d'accomplir la promesse, ses promesses dans ta vie ce matin. Êtes-vous avec moi? Ur en Chaldée, Dieu a agi en guérissant le cœur avant le corps de cette femme. La deuxième étape, ils sont partis de Ur en Chaldée, je vous ai dit, ils ont marché 900 kilomètres. Et là, la Bible nous dit qu'ils se sont arrêtés à Charan ou Haran. Et dans Genèse 11, verset 31, il est écrit, « Térakh prit son fils Abraham. » Térakh était le beau-père de Sarah, le père d'Abraham. Il prit son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Haran ou Charan, ils s'y installèrent. Et c'est fascinant parce que alors qu'ils marchent dans la promesse, ils marchent tous ces kilomètres-là, ils arrivent à un lieu, ils sont obligés de s'arrêter. Et je ne sais pas si vous ou moi, ou que vous êtes comme moi, mais bien des fois, quand je prie, j'attends la réalisation d'une promesse, des fois j'ai l'impression d'être arrêtée. J'ai l'impression d'attendre et d'attendre. Et c'est exactement ce qui prend place. La Bible dit qu'ils s'y arrêtèrent. Et s'y arrêter, c'est pas genre, ils ont pris un petit bed and breakfast sur le bord de la route puis ils ont attendu au lendemain pour repartir. Et c'est même pas qu'ils ont arrêté quelques jours ou quelques semaines. Ils se sont arrêtés pour une longue période de temps. Et là, j'ai voulu creuser pourquoi ils se sont arrêtés là. Et c'est Tara, le beau-père de Sarah, le père d'Abraham, qui était le chef de la famille, qui a décidé de s'arrêter là. Et des fois, quand on est arrêté dans l'accomplissement d'une promesse, ce n'est pas toujours de notre faute. Des fois, il se passe quelque chose dans la vie de quelqu'un que Dieu doit changer. J'écris Charan, le lieu de transformation, de libération. C'est à cet endroit-là que Dieu va venir libérer Sarah et Abraham de l'idolâtrie. Alors, on me dit, mais pourquoi l'idolâtrie? Abraham et Sarah étaient des gens qui adoraient Dieu Elohim, le Dieu créateur. Mais la Bible nous dit dans Josué, chapitre 24, vous pourrez voir les textes, on nous dit, chapitre 24, verset 2, si vous regardez, ça dit, Josué qui parle, il va dire, « Voici ce que je déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Terah, le père d'Abraham et de Nakhor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. » Et c'est exactement pourquoi Abraham et Sarah étaient bloqués à Charan. Parce que Terah était un homme qui adorait un autre dieu. Et pourquoi Charan? Parce que Charan était connu pour être un lieu de culte, d'idolâtrie, du culte lunaire. Il y avait un temple connu dans cette époque-là pour les gens allaient adorer le dieu de la lune. Pourquoi je vous raconte ça, le dieu de la lune? C'est fascinant. Toute écriture est inspirée, il n'y a rien, il n'y a pas un détail que tu ne veux pas nous enseigner. Et alors que Terah est là, le dieu de la lune, c'est le dieu de la fertilité. Êtes-vous avec moi? Pendant qu'ils marchent vers leur promesse, quand la route est longue et aride, chacun et chacune d'entre nous, nous avons tous été peut-être à Charan. Et de dire, si c'est long, et c'est ce que Terah a fait. Terah, je suis certain qu'il disait, si Dieu ne le fait pas, moi, je vais le faire à ma façon. Et l'idolâtrie était entrée dans la famille. Et quand je parle d'idolâtrie, on a tous des idoles aujourd'hui. Là, vous allez me dire, franchement, pasteur Stéphanie, des idoles, comment? Quelle sorte d'idole? Je ne parle pas d'idole physique où vous mettez à genoux et vous prosternez. Mais si on regarde bien ça, souvent, il y a quelque chose, l'idole, c'est remplacer la foi en Dieu par quelque chose d'autre. mettre la foi dans un autre Dieu avec un petit D. Leur dire, quelle sorte de Dieu tu veux parler? Des fois, des idoles, ça peut prendre toutes sortes de façons. Hein? Une des idoles, ça peut être, comme a fait Tara, le contrôle. Dans l'épuisement, la fatigue, si Dieu n'agit pas, je vais le faire à ma façon. Ça peut être du compromis, attendre un mariage, attendre de rencontrer un homme. Si Dieu ne me l'envoie pas, je vais le faire à ma façon. Élever des enfants, ça peut être toutes sortes de façons, du compromis. Ça peut être une relation que ce matin, Dieu te dit, tant que ça, c'est dans ta vie, quelque chose que tu as avec quelqu'un, quelque chose, Dieu, tant que tu as ça dans ta vie, tu vas être bloqué à Charan. Ça peut être quelque chose. Vous savez, une idole, ça peut être des fois nos peurs et nos craintes. Parce que des fois, nos peurs et nos craintes nous nourrissent plus que la foi. Et moi, j'ai pas de jugement. Parce qu'on a tous eu, en tout cas pour ma part à moi, je vais dire, faire face à une situation que j'attends et que j'attends encore. Et des fois, tu as peur, tu as l'impression que ça n'arrivera pas. Ou tu as été déçu et ça, ça vient au-dessus de Dieu. Et sans vous offusquer, ça s'appelle une idole. C'est-à-dire que ce n'est plus Dieu qui règne sur ta vie. Et Charan, le lieu de la transformation et de la libération, il a fallu que quelque chose meure pour qu'il puisse quitter ce pays. Il a fallu qu'une situation arrête, qu'une muraille qui tombe. Et la Bible nous dit dans Genèse 11, versets 31-32, c'est ce que ça dit, « Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. » Lorsque Téra, qui avait fait entrer l'idolâtrie dans cette famille-là, est mort, Dieu est revenu et a rappelé sa promesse à Abraham. Est-ce que tout de suite, chapitre 11, ça se termine comme ça, et chapitre 12, ce qui s'en vient, le texte nous dit, « L'Éternel dit à Abraham, il réitère sa promesse, « Va, quitte ton pays, je t'indiquerai, je ferai de toi l'enseigne d'une grande nation. » Et regardez ce qu'il dit. Une fois que l'idolâtrie est sortie, il a dit, « Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. » Tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Et je veux t'encourager ce matin. Dieu est ici, comme il l'a fait pour Sarah, comme il l'a fait. Il y a des idoles que tu ne te sens peut-être pas capable de sortir de ta vie. Mais Dieu est capable, dans le lieu de Charan, de venir te libérer et de venir te transformer pour te dire que sa promesse va arriver à son terme parce qu'il est celui qui est le Tout-Puissant. Amen. Est-ce que vous le croyez dans ce lieu que Dieu est capable de faire tomber les pires craintes, les pires peurs, les pires doutes, les pires contrôles parce qu'il veut t'emmener de Charan en Canaan, le dernier lieu qu'ils ont visité. Ils sont partis de Charan, ils ont marché jusqu'à Canaan. Et rendus à Canaan, bien sûr, ils vont arriver là. Et Dieu, c'est fascinant parce qu'il va se révéler d'une façon qui est juste extraordinaire et d'une façon qui est juste sa pure grâce. Sarah, ça fait des années avec Abraham qu'ils attendent. Dieu les a transformés, libérés, guéris. Mais ils attendent encore la promesse de Dieu. Et comme Sarah, elle a fait un peu comme son beau-père, mais d'une façon différente. Il y a une espèce de parenthèse dans cette histoire-là où que Sarah, elle est dégoûtée, elle n'en peut plus d'attendre. Et qu'est-ce que vous connaissez pour la plupart d'entre vous l'histoire, c'est qu'elle dit qu'il faut absolument qu'Abraham ait une descendance. Et à cette époque-là, c'était une coutume, bien sûr, qui n'est plus actuelle aujourd'hui. Mais elle a pris... elle a pris sa servante, elle est allée la donner à son mari, puis elle a dit, c'est par cette femme-là que la promesse de Dieu va arriver. Je veux t'encourager que quand Dieu te fait une promesse, il ne l'accomplit pas ni à droite ni à gauche de toutes sortes de façons. Il l'accomplit de la façon dont il dit qu'il va le faire. Et lorsqu'elle arrive et finalement elle subit les contre-coups de ce geste-là, elle est méprisée. Et là, comment... Entre vous et moi, comment pensez-vous que Dieu va réagir? Alors, l'histoire se termine, et quand vous lirez dans Genèse chapitre 16, et quand vous arrivez dans Genèse 17, la suite du pèlerinage, savez-vous qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham, à Sarah, une fois qu'elle a joué toutes ses cartes et qu'elle a essayé d'accomplir par elle-même? Il va leur dire, Dieu dans Genèse chapitre 17, verset 15 à 16, il va dire, « Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. » Là, vous êtes assis ici ce dimanche à la fête des mères, tu dis, « Stéphanie, je l'ai lu 25 fois. » Moi aussi, je l'ai lu des dizaines de fois. Mais là, imaginez, alors qu'elle a essayé par ses propres forces, Dieu ne vient pas la condamner. Il dit, Dieu va venir, il va dire, Dieu dit à Abraham. Et Dieu, pour vous, Dieu dit à Abraham, c'est le Dieu que vous connaissez. Mais eux, à cette époque-là, Dieu, le nom qu'on donnait à Dieu, c'était Elohim, Dieu tout-puissant, Dieu créateur de l'univers. C'était ce Dieu Elohim-là. Et alors que Sarah est à son plus bas, la plus fautive, qu'elle a plus de cartes à jouer, Dieu va se révéler à Abraham, puis il va lui dire Dieu, non pas Elohim, mais il va dire Dieu El Shaddai. Et c'est la première fois dans la Bible que vous allez voir apparaître El Shaddai. Et le Dieu El Shaddai, c'est le terme en hébreu qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Mais à travers tout le Pentateuque, c'est le terme qu'on va utiliser pour le Dieu qui est lié à une promesse de descendance. Alors qu'elle a fait tout par elle-même, Dieu, au lieu de la consoler, il va dire « Non, je suis El Shaddai, le Tout-Puissant, celui qui donne une descendance. » Mais même le mot hébreu veut dire « le Dieu qui est suffisant. » C'est le Dieu qui te dit ce matin, n'essaye pas par toi-même, je suis El Shaddai, celui qui est suffisant pour te guérir, pour te donner la paix, pour te redonner la foi à travers les plus lentes promesses que tu attends aujourd'hui. Je suis El Shaddai, celui qui est suffisant. Et aussi, c'est merveilleux comment la grâce de Dieu est bonne. C'est-à-dire qu'il va dire, en plus ta femme, elle s'appellera plus Sarah. Sarahi, elle va s'appeler Sarah. Saviez-vous, encore là, qu'à cette époque-là, une femme, c'était absolument pas considéré, encore moins stérile. C'est la première fois dans la Bible que Dieu va changer le nom d'une femme. Il avait déjà changé le nom Abraham en Abraham avec un H. Abraham veut dire père élevé. Et Dieu a changé, tu ne seras plus Abraham. Pour lui rappeler sa promesse, il va l'appeler Abraham avec un H. Il va dire, tu es le père d'une multitude de nations. Et lorsqu'il arrive à Saraï, Saraï, le mot veut dire ma princesse. C'était un mot charmant pour dire Saraï était la princesse d'Abraham. Mais là, Dieu va lui dire, je suis celui qui est suffisant. Et je te dis que je réitère ma promesse envers toi. Et Saraï veut dire princesse d'une multitude de nations. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais comment une femme stérile, sans aucune arrière, aucune descendance, aucune destinée, Dieu la voit et dit, je suis suffisant pour toi. Et il va changer ton nom d'une princesse à la princesse des nations. Alléluia! Canaan est le lieu de la révélation et le lieu de la bénédiction. Alors que j'arrive à la fin de ce message, j'ai invité tranquillement les musiciens à s'avancer. Et moi, tout ce cheminement-là m'a tellement béni parce que j'ai déjà été à Ur en Chaldée, de la honte dans certains aspects. J'ai déjà été à Charan, des choses que Dieu m'a dit, laisse ça de côté, laisse, je vais te libérer afin que tu puisses rentrer dans ta promesse. Et merci Seigneur que même quand je me préparais pour la fin des mers, j'étais en Canaan où El Shaddai venir me dire, je suis avec toi dans ta maison. Je suis avec toi dans la promesse que tu attends. Tu n'es pas une princesse, tu vas être une princesse. Dieu va t'utiliser d'une certaine façon. Et le dernier point, j'ai dit, tout mon message, c'était le Dieu qui agit dans l'attente, L'attente. Mais ce matin, alors que le message tire à sa fin, je veux vous rappeler que Dieu est aussi celui qui agit dans l'attente. N'est-ce pas un beau? J'ai travaillé fort quand même pour ce jeu de mots-là extraordinaire. Merci beaucoup. Ça me touche profondément. Et pourquoi je termine avec ça? Parce qu'alors que, comment on voit la nature humaine, alors que Dieu a agi, s'est manifesté tout au long de ce pèlerinage, on arrive à la fin, presque à la dernière année de l'obtention de la promesse. Ça fait 24 ans que Sarah attend. Et là, la Bible nous dit en Genèse 18 que l'Éternel s'est encore révélé. Il a pris la forme de trois anges. Il se présente à Abraham. Ils vont arriver. Alors, Abraham va les accueillir. Il va se prosterner. Il va offrir l'hospitalité. Il va les faire manger. Mais encore là, comment la bonté de Dieu. Et lorsque ces anges-là vont apparaître, ils vont dire dans Genèse chapitre 18, versets 9 à 14, « Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? » Et il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Et déjà, c'est surprenant que ces hommes-là qui faisaient la représentation de Dieu sur terre disent encore à cette femme-là, « Et où? Et où, Sarah? » Il dit, « Elle est dans la tente. » Et l'un des visiteurs dit, « Je reviendrai chez toi l'an prochain. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoutait. Et tous les mots sont importants. La Bible nous dit, « Elle se mit à rire en elle-même. » Pas des gros rires, « Ha, ha, ha! » Un rire en elle-même. Mais ce n'était pas un rire de joie, vous imaginez. Ça dit, comment cela serait possible que je sois enceinte? Abraham était déjà vieux. Elle dit, et j'ai passé l'âge d'avoir des enfants. Elle dit la phrase suivante, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Et mon Seigneur aussi est vieux. » Et lorsque tu t'arrêtes là, tu te dis, elle a un rire alors qu'elle est dans l'attente. Elle commence à entendre encore une fois la promesse que Dieu, dans son amour, va lui dire, « Je vais l'année prochaine, à pareille date, tu vas être enceinte. » Et au lieu de croire, elle est cachée comme ça à l'entrée de la tente. Et si vous prenez le temps à la maison d'écouter le texte, alors qu'elle entend les trois hommes sont de dos, Abraham est derrière, est de dos aussi. Personne ne la voit. C'est pour ça qu'il la cherche. Elle est cachée. Et pendant qu'elle entend la promesse, elle se met à rire, mais un rire sarcastique, un rire d'amertume, un rire d'abandon, puis de dire, « Mais ça se peut pas, moi j'ai abandonné. » Et alors qu'elle est toute cachée, qu'elle pense que personne ne la voit, un des hommes va lui dire, « Mais pourquoi ta femme a-t-elle ri? » Et je m'arrête un instant. Comment ces hommes ont pu la voir alors qu'ils ont le dos tourné, alors qu'elle est cachée dans la tente et alors qu'elle rit en dedans d'elle-même? C'est Dieu qui leur a révélé. Et peut-être ce matin, tu es comme Sarah. Moi, je m'inclus. Peut-être était un moment dans la tente. Et que, alors que Dieu te dit, hein, il va leur dire, l'ange va lui dire, y a-t-il donc quelque chose que Dieu ne soit pas capable de réaliser? C'est exactement ce que je te dis ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu crois dans ta vie, dans ta maison, que tu attends? Puis on te dit, Dieu est capable de tout faire. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Mais toi, ce matin, homme ou femme, tu es peut-être à l'entrée de cette tente-là. Et tu penses que personne ne te voit. Que personne entend ton amertume, ta peine. Mais je veux juste te dire que ce matin, comme ces hommes ont vu Sarah cachée, Dieu te voit. Tu n'es pas invisible devant Dieu. Dieu ne te tourne pas le dos. Et Dieu te dit ce matin, pour ta maison, pour ton mariage, pour ta destinée, y a-t-il quelque chose que je ne suis pas capable d'accomplir dans ta vie? Saisis la promesse ce matin pour ta famille. Frères et sœurs, ce matin, saisis-toi. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas accomplir dans ta vie. Alors que tu penses qu'il ne te voit pas, alors que tu penses qu'il n'agit pas, il est en train d'agir de Ur en Chaldée, de Charan jusqu'à Canaan pour réaliser sa promesse dans ta vie. Alléluia, fais comme Sarah, déclare-le. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque le message tire à sa fin. Genèse 21. Et l'Éternel visita Sarah comme il avait dit. Et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut et enfanta Abraham un fils dans sa vieillesse au temps fixé. Il y a un temps fixé. Les 25 ans ont servi à une transformation, une libération, une guérison. Mais au temps fixé, Dieu va agir comme il l'a promis. Dieu lui avait parlé. Abraham appela le nom de son fils qui lui était né. Il l'appela Isaac. Et savez-vous qu'est-ce que ça veut dire Isaac en hébreu? Ça veut dire rire. Rire. Et Sarah dit, Dieu m'a fait rire de joie. Le rire qu'elle avait dans la tente, c'est tsekak en hébreu. Et c'est pas du tout le même rire. Dieu, elle dit, Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. Elle ajouta, qui aurait pu dire Et c'est ma prière pour vous, pour moi, pour vos maisons, pour ma maison. Qui aurait pu dire que Dieu a agi? Qui aurait pu dire que Sarah allaiterait des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Et je veux t'encourager ce matin. Dieu transforme les rires d'amertume en rires de joie. Dieu transforme les deuils en allégresse. Dieu a agi. Écoutez-moi bien, Dieu a agi dans l'attente. Dans l'attente. Bien sûr, on va se parler franchement, Abraham et Sarah ont aussi agi dans l'attente. On est d'accord pour qu'elles deviennent enceintes. On est correct avec ça? Et je me disais, pourquoi qu'elle s'était écrit? Aurais-je encore des désirs? On est âgé. Aurais-je encore des désirs? Dieu, dans l'attente, a fait deux miracles. Le premier, c'est remettre le désir de recommencer. Dieu, ce matin, peut donner la foi de recommencer à prier, recommencer à croire, recommencer à croire pour les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir. Et dans cette tente, il a donné cette foi de recommencer. Ils ont fait ce qu'il était dans leur pouvoir. Mais Dieu a guéri la stérilité d'une femme pour la faire enfanter et qu'elle devienne père d'une multitude de nations. Amen. Et c'est le Dieu, ce même Dieu aujourd'hui, que nous choisissons d'aimer, qu'il est mort à la croix pour vous et pour moi. Et juste en terminant, je sais que ça fait trois conclusions, mais que voulez-vous? Mon pasteur Claude, c'est comme ça qu'il m'a enseigné. Il y a au moins trois conclusions aussi. Et alors que je termine, il n'y a pas un meilleur exemple de parler de comment l'attente nous transforme. Et j'ai dit, le charbon, c'est un peu à l'exemple de vous et de moi. Un charbon, c'est noir, c'est sale, c'est sans valeur. Un charbon, lorsqu'il est soumis aux températures élevées, lorsqu'il est soumis à la chaleur, pendant une longue période de temps, les lois de la nature, les lois naturelles vont faire que ce charbon-là, sous la pression, sous la chaleur, va se transformer en un diamant pur. Parole d'une chimiste, c'est le même, le carbone du charbon est le même que le carbone du diamant. La seule chose qui le transforme, c'est la pression et la chaleur. Et c'est exactement, j'espère ce matin, vous avoir montré l'attente, la transformation, dans l'attente, la libération, dans l'attente, la guérison, dans l'attente, la révélation, afin de faire de vous et de moi un diamant. Et la racine du mot diamant, sa racine veut dire invincible. Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes invincibles. Alléluia. Je sais qu'il reste juste quelques minutes et Mylène est là avec toute l'équipe. On va chanter « Il est le Dieu des miracles ». Et j'aimerais demander à toutes les femmes dans ce lieu, pas juste les mères, à toutes les femmes, c'est mon privilège ce matin, de vous inviter rapidement. Levez-vous, vous êtes, venez en avant rapidement, qu'on puisse prendre un temps, juste quelques secondes. Dans quelques minutes, vous allez sortir de ce lieu. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la zone VIP, il y a le photo booth. Mais je crois sincèrement que ce matin, Dieu veut redonner la foi. Peut-être que tu es à Ur en Chaldée. Il veut venir enlever ta honte, la honte que tu as peut-être sur ta maison, la honte que tu as, la stérilité, un endroit de ton âme, de ton cœur qui est stérile. Il est ici, Ur en Chaldée, pour venir dans ton lieu d'incompréhension, te donner la guérison. Tu es peut-être à Charan avec quelque chose que Dieu te dit, ça prend toute la place dans ma vie. Je veux être le roi, le maître de ta vie. Je veux que tu enlèves, Dieu veut enlever cette chose-là pour qu'il vienne remplacer, qu'il soit le Tout-Puissant sur le trône de ta vie. Peut-être qu'on peut partout s'avancer, en avant qu'on aille aussi au centre, ici, il y a de la place pour tout le monde. Et peut-être que tu es dans l'attente et tu as besoin, le Dieu de la révélation, que ce matin, Dieu vienne dire à ton âme, je suis El Shaddai. Je suis, oui, Créateur, Tout-Puissant, mais je suis le Dieu Tout-Puissant, mais le Dieu personnel, El Shaddai, qui est suffisant pour toi. Peut-être ce matin, tu es comme Sarah, cachée dans la tente. Tu as l'impression que ton mari, tes enfants, Dieu, peut-être que tu as l'impression que personne ne te voit. Mais Dieu t'a vu, le Dieu de grâce, est ici pour te redonner la vie.